Bienvenue. Bienvenue pour le 11e épisode de Déclencheur, le podcast qui parle photo. Trois segments dans cet épisode, l'édito, qui sera consacré à un reportage que je viens de réaliser ce week-end, le segment principal qui est consacré au développement de vos fichiers RAW à l'aide de caméras RAW, un des thèmes que vous aviez plébiscité lors du dernier sondage, et enfin le troisième segment avec vos commentaires et mes réactions. Notez dès à présent l'adresse du site web www.déclencheur.com. Vous pourrez vous y abonner par email, par iTunes ou par RSS, poster un commentaire, une réaction ou retrouver tous les liens et tous les fichiers de l'épisode. Un complément visuel sous la forme d'un fichier PDF est disponible pour cet épisode. Il reprend les principales captures d'écran dont on va parler tout à l'heure. Certains d'entre vous m'ont écrit pour me dire qu'ils avaient du mal à trouver les compléments visuels. Alors en fait, il y a deux grandes solutions. Si vous êtes abonné via le fil RSS, vous avez normalement dû recevoir le fichier PDF dans le fil. Et la plupart des agrégateurs le gèrent, en tout cas l'agrégateur le plus populaire, iTunes, les gère sans aucun problème. Si vous n'êtes pas abonné ou si votre agrégateur ne gère pas les fichiers PDF, alors vous devez vous rendre sur le site www.déclencheur.com pour y télécharger le complément visuel. Spécialement pour cet épisode, je distribue également les fichiers RAW que j'ai utilisés pour préparer cet épisode. Donc ça vous permet de refaire par vous-même les manipulations que j'ai réalisées. Vous les trouverez exclusivement sur le site www.déclencheur.com. Attention, ces fichiers restent protégés par copyright et je vous demande de ne les utiliser que pour reproduire les manipulations et vous entraîner au développement de fichiers RAW. Premier segment, donc l'édito. J'ai vécu une expérience rare ce week-end que je voulais partager brièvement avec vous. Un de mes amis était ordonné diacre et il m'a demandé d'assurer le reportage photo. Alors d'ordinaire, je refuse les reportages photos pour les mariages, communions, baptêmes, etc. Je trouve que c'est très stressant et j'ai toujours l'impression d'être dans les pieds des célébrants. En général, je ne suis pas partant, mais exceptionnellement ici, vu les circonstances, vu les situations, j'ai accepté. Heureusement, nous étions deux photographes amateurs tous les deux, mais photographes néanmoins, pour couvrir l'événement. Et notre ami nous avait très bien briefé sur la cérémonie. J'avais un déroulé complètement annoté tout ce qui allait se passer. Malheureusement, la chapelle était très petite, elle était pleine comme un œuf, ce qui veut dire qu'il était très difficile de se déplacer, et elle était très très sombre, donc c'était loin des conditions idéales. Surtout, nous avions décidé de limiter l'usage du flash à l'ordination, donc une partie de la cérémonie seulement, justement pour ne pas trop déranger la cérémonie, ce qui veut dire que la plupart du temps, j'ai travaillé en ISO élevé et avec un objectif très lumineux. Mon magasin photo, Brisebois à Namur, qu'il soit remercié, m'avait gentiment prêté un monopied. C'est un accessoire dont j'ai vraiment ici découvert l'utilité, et en particulier avec un télé moyen. Il faut savoir que j'étais au-dessus de la porte d'entrée, en regardant vers le cœur. Mettre un trépied n'aurait pas été possible, et le monopied s'est révélé très pratique. Donc en final, c'est une expérience assez unique. Elle ne m'a pas vraiment réconcilié avec le reportage, parce que j'étais vraiment terriblement stressé, et elle m'a rappelé l'importance pour ce genre d'événement d'être vraiment bien préparé. Le déroulé de la cérémonie a été très utile, et elle m'a permis de découvrir le monopied, ce qui n'est pas désagréable. Et enfin, j'étais très content à ma manière de pouvoir participer à cette cérémonie que je sais très importante pour mon ami. Deuxième segment donc, le développement d'un fichier RAW. Sans l'ombre d'un doute, un des thèmes que vous avez plébiscité dans le dernier sondage. J'ai pratiqué de la manière suivante. Je me suis enregistré en train de développer un fichier RAW. Donc en quelque sorte, vous allez pouvoir jeter un œil, écouter par-dessus mon épaule. De temps en temps, je reprendrai le micro pour commenter un point plus complexe. Le deuxième sujet que vous avez plébiscité lors du sondage, c'est le développement des fichiers RAW. Le RAW, c'est ce format brut de coffre, je dirais, c'est-à-dire le format dans lequel l'appareil enregistre directement les données du capteur et ne leur applique aucun traitement. En effet, pour créer un JPEG, l'appareil part évidemment des mêmes données du capteur, mais va leur appliquer toute une série de traitements, la balance des blancs, le contraste, l'accentuation, etc., pour obtenir en fait une image affichable. Le principe du RAW, c'est de ne pas appliquer les traitements dans l'appareil et de les appliquer sur l'ordinateur, par exemple dans Camera RAW. Donc c'est clair, on va appliquer exactement les mêmes traitements que ceux que l'appareil aura appliqué pour produire un JPEG. Alors allez-vous me dire, mais quel est l'intérêt de travailler comme ça? Eh bien, c'est que les réglages, les paramétrages de ces différents traitements, on va pouvoir les peaufiner calmement devant son ordinateur en ayant un grand écran. Je crois qu'il y a déjà assez de paramètres à régler sur le terrain en termes de composition et d'exposition. Donc si on peut éviter d'avoir en même temps à régler tous ces éléments dans le menu, eh bien je crois que ce sera une grande facilité. Comme toujours sur ces épisodes, je vous mets en garde. Je travaille avec le RAW depuis quelques années, mais je ne prétends absolument pas être un expert en la matière. Donc je vais vous expliquer ce que je fais, Vous allez voir qu'en final, c'est très simple. N'hésitez pas à confronter ça avec votre expérience. Et un deuxième bémol, je vais vous l'expliquer avec un fichier, en prenant l'exemple d'un fichier RAW. Donc, ça veut dire forcément qu'il y a des cas de figure que je ne vais pas examiner dans cet épisode. J'ai pris en effet le parti pris de travailler sur un fichier, de m'enregistrer en train de développer ce fichier et surtout de mettre ce fichier à disposition sur le site www.déclencheur.com. Ce qui veut dire que vous pouvez, vous aussi, réappliquer les mêmes réglages ou essayer d'autres réglages. Peut-être que vous obtiendrez une photo plus intéressante que la mienne. La première étape quand on développe des fichiers RAW, c'est de sélectionner les fichiers qu'on va développer. Dans une session, il y a beaucoup trop de photos. En tout cas, chez moi, il y a beaucoup trop de photos. Donc, j'en sélectionne une ou deux qui sont celles qui méritent en fait d'être travaillées, d'être développées. Je ne perds pas mon temps à absolument tout développer. Et dans celles que je sélectionne, je fais même souvent un deuxième tri avec celles que je vais simplement rapidement envoyer au tirage dans un labo, donc je fais des corrections minimalistes, et celles que je vais prendre la peine d'amener à un niveau qualitatif suffisant. L'outil pour faire la sélection avec Adobe, c'est Adobe Bridge. J'en ai déjà parlé, je préfère pour ma part Photo Mécanique, mais peu importe, avec une visionneuse, c'est ça le concept, avec une visionneuse, vous allez choisir les photos intéressantes. Pour cet épisode, j'ai choisi une photo de vacances parce que c'est mon actualité, je reviens de vacances, et j'ai choisi une photo prise sur la plage de Nairn en Écosse. Je vous demande de ne pas diffuser cette photo. Elle est là simplement pour vous permettre de comparer la manière dont vous travaillez en caméra RAW avec la manière dont je travaille, mais je vous demande de ne pas la diffuser. Vous disposez donc de plusieurs compléments pour cet épisode que vous pouvez télécharger sur le site www.déclencheur.com. D'abord, un complément visuel, un PDF qui reprend les écrans de caméra RAW. Et si vous n'avez jamais travaillé avec caméra RAW, je crois qu'il est vraiment indispensable d'arrêter l'écoute maintenant et d'aller chercher le PDF. Et à côté de ça, donc les deux fichiers RAW pour que vous puissiez refaire les manipulations par vous-même. La photo sélectionnée a une exposition un petit peu délicate puisqu'elle a été prise en plein soleil et donc j'ai utilisé les techniques dont on avait parlé dans l'épisode 7, le flash, pour éviter en fait d'avoir un contraste trop fort entre les zones de lumière et les zones sombres. Ce qui m'amène à une mise en garde assez importante, comme beaucoup d'aspects de la photo, le développement des RAW, c'est à la fois de la technique et de l'esthétique. La technique, on va en parler dans cet épisode, les goûts, les couleurs, votre sens de l'esthétique, ça je vous laisse complètement libre, ce qui veut dire que si vous voulez avoir une photo par exemple très saturée, c'est quelque chose que je n'aime pas, eh bien, il y a moyen de le faire dans Camera RAW, moi je ne vais pas le faire, mais si ça correspond à vos goûts, n'hésitez pas à le faire. Donc commençons par présenter, et là je vous invite à avoir le PDF sous les yeux, par présenter l'interface de Camera RAW. À gauche, vous avez la liste de tous les fichiers ouverts. Donc si vous n'avez ouvert qu'un seul fichier, la liste n'apparaît pas, mais généralement vous verrez pourquoi, on en ouvre au moins deux. L'image apparaît au centre avec une petite barre d'outils au-dessus. Les paramètres qu'on va manipuler dans le traitement de l'image et un histogramme apparaissent à droite. Notez qu'il y a jusque 5 onglets et vous pouvez afficher ou ne pas afficher les 5 onglets à l'aide du petit menu contextuel. Enfin, dernière zone, les paramètres du flux de production, c'est-à-dire les caractéristiques du fichier tel qu'il s'ouvrira dans Photoshop. Sur cette boîte de dialogue, il y a deux zones qu'on va regarder souvent, évidemment l'image, mais également l'histogramme. L'histogramme est tout à fait classique, donc comme tous les histogrammes, il représente la répartition des tonalités dans l'image, avec cette particularité qu'il l'affiche couche par couche, et donc vous voyez des courbes de différentes couleurs, rouge, vert et bleu, qui symbolisent en fait les différentes couches de couleurs. Pour plus d'informations sur l'histogramme, je vous invite à réécouter l'épisode 3 ou le premier épisode de Déclencheur Mini. Juste au-dessus de l'histogramme s'affiche une petite zone qui contient une information encore plus précise. C'est ce que moi j'appelle le spotmètre numérique, mais en final c'est simplement l'affichage des valeurs RVB sous le curseur. Ça permet d'aller très finement piquer un morceau de l'image et de voir précisément quelles sont ses valeurs de couleur. Les valeurs 0 représente le noir et 255 c'est le blanc. La toute première chose que je fais en arrivant dans Camera RAW, c'est vérifier que la photo correspond bien aux bons critères techniques. Donc qu'elle n'est pas floue, qu'il n'y a pas trop de bruit, etc. Le cas échéant, bah, j'irai peut-être voir dans les autres photos de la session pour voir s'il n'y en a pas une autre qui est plus adaptée. Donc pour ça, c'est très facile. Je double-clique sur l'outil zoom, ce qui a comme effet d'amener l'image immédiatement à 100%. Je me balade un petit peu dans l'image, je vérifie qu'effectivement elle est correcte d'un point de vue purement technique. Ici, j'ai déjà fait la sélection esthétique. Et je redouble-clique sur la main pour la ramener en plein écran. Une fois que ça est fait, le travail peut commencer. Camera RAW est conçu pour compléter Photoshop, pas le remplacer. C'est normal, c'est la même société qui développe les deux produits. Dans Camera RAW, on fera les corrections globales. La colorimétrie, le contraste, la luminosité, le cadrage. Les corrections plus locales, donc effacer un élément de l'image gênant, rajouter un contraste mais localisé, ça se fera dans Photoshop lui-même. Première étape, la balance dit blanc, la correction des couleurs. L'idée de la balance des blancs, c'est de dire à Caméra Raw, d'informer Caméra Raw de la température de couleur de la source lumineuse qui est utilisée pour faire la photo. Si on n'applique pas cette correction, ben on peut avoir des photos qui vont avoir des couleurs incorrectes, par exemple trop rouge si on était sous éclairage incandescent, trop bleu si on était à l'ombre. Moi je travaille avec une en RAW et je travaille avec une charte neutre de type Wyball. Le principe, c'est une fois de temps en temps dans la session, je prends une photo de ma charte neutre et une fois arrivé dans Camera Raw, ben je vais aller mesurer la température de couleur sur cette photo-là, cette photo de référence. J'ai pour principe de toujours photographier, vous le voyez sur l'image, de toujours photographier mon Wyball dans l'environnement. Ça m'aide par la suite quand je veux retrouver à quelle photo ce Wyball correspond. Il peut être petit sur la photo, c'est pas grave. Vous remarquez aussi que je prends même pas la peine de faire la mise au point dessus. Il est neutre et uniforme, donc il y a aucun problème s'il n'est pas net. La mesure peut quand même se faire. Moi, j'utilise un Wyball parce que je trouve qu'ils sont petits, pratiques, solides, mais il y a d'autres marques qui existent. Par exemple, les chartes Kodak, les produits de Lastolite, les produits Gretac. À vous de choisir le produit qui correspond le plus à votre style, je dirais. Par contre, il y a deux points tout à fait essentiels. Numéro un, vous devez être sûr que votre charte que vous photographiez, elle est bien sous la même lumière que le sujet. Ici, c'est pas un problème parce que c'est un paysage, donc on est éclairé par le ciel, donc forcément, je suis éclairé de la même façon que mon sujet. Mais si j'avais été sous un éclairage artificiel, peut-être que moi, le photographe, je peux ne pas être éclairé par la même lumière que le sujet. Dans ce cas-là, je dois donner la charte au sujet pour être sûr d'avoir la mesure correcte. Deuxièmement, il faut faire attention à éviter les reflets sur la charte, parce que les reflets, ça va en fait entraîner une erreur de lecture. Je prends donc la photo qui contient la charte, je sélectionne toutes les autres photos, POMA, CTRL-A, je choisis la pipette, et je vais simplement cliquer sur la carte grise et instantanément Photoshop me recalcule la balance des blancs correcte et met à jour automatiquement toutes les photos du lot. Une petite mise en garde, la balance des blancs mesurée, c'est la valeur correcte techniquement, c'est pas toujours la plus belle valeur. Donc parfois on va reprendre le réglage et on va aller manipuler un petit peu autour pour voir si on ne peut pas obtenir une image avec des tons un peu plus chauds. Ici sous un ciel pur, ça n'a pas beaucoup de sens de le faire, un beau ciel d'été, mais sous d'autres éclairages, mais parfois on va vouloir justement réintroduire un petit peu de la chaleur de l'éclairage d'origine. Faites très attention si votre écran n'est pas calibré, il peut lui-même avoir une dominante et donc vous avez l'impression d'avoir une image trop bleue par exemple, et vous compensez, vous avez l'impression plutôt de compenser, et en fait vous ruinez votre image. Ce qui est intéressant à faire, et ce sera valable pour tous les réglages, quand vous manipulez un des réglages, il est vraiment intéressant de jeter un œil sur l'histogramme. Et en particulier pour la balance des blancs, mais la réaction de l'histogramme, c'est que les courbes, les trois courbes de couleur, rouge, bleu et vert, vont en fait se séparer. Ça se voit très bien au niveau des pics. On voit les pics qui s'éloignent ou qui se rapprochent en fonction du changement de la balance des blancs. Donc ça nous montre bien qu'en fait la balance des blancs, c'est un réglage de la proportion des trois couches de couleur, rouge, vert et bleu. Et donc si on a une photo qui a une dominante rouge, eh bien la balance des blancs, pour compenser ça, va diminuer l'intensité de la couche rouge. Si vous voulez beaucoup plus d'informations sur la balance des blancs, je vous renvoie à l'épisode 1. Ayant réglé la balance des blancs, la deuxième étape, ça va être de régler la luminosité et le contraste. Donc pour ça, on va utiliser les paramètres exposition, ton foncé, luminosité et contraste. On va également se baser sur l'histogramme pour vérifier qu'on n'est pas en train de faire des bêtises. Il ne faut pas lire l'histogramme et ne plus regarder la photo, il faut regarder les deux évidemment, mais si votre écran n'est pas calibré, ça vaut vraiment la peine de surveiller l'histogramme pour être certain de ne pas entraîner en fait une correction qui serait incorrecte et qui serait due au fait que l'écran est mal réglé. Alors Photoshop a calculé un certain nombre de valeurs automatiques, parfois il a raison, mais très souvent je trouve qu'il a tort, et donc c'est un point de départ, mais je m'en éloigne assez souvent pour obtenir un rendu qui correspond au rendu que j'ai envie d'obtenir avec ma photo. Et l'exposition sert globalement à déplacer l'histogramme vers la droite, la partie droite de l'histogramme. C'est plus ou moins équivalent à la flèche blanche dans la boîte de niveau, donc c'est plus ou moins équivalent au réglage des tons clairs dans la boîte de niveau. Techniquement, c'est très différent, parce que le fichier RAW n'a pas du tout les mêmes caractéristiques que les fichiers JPEG ou TIFF qui sont ouverts dans Photoshop, mais pratiquement, concrètement pour nous, je crois que c'est une bonne analogie qui aide vraiment à comprendre ce que ces différents outils font. Donc la première chose, ça va être de régler l'exposition, ou plutôt de chercher quel est le point blanc dans mon image. Et pour ça, j'en tiens la touche Alt enfoncée, et je varie le paramètre d'exposition, la photo passe en noir, et ne s'affiche plus que les zones surexposées. Et donc comme ça, je trouve très vite que les zones les plus exposées de l'image, ici, sont en fait le bonnet. Donc je sais que j'ai un élément important de mon sujet, qui est dans une des zones les plus exposées de la photo, ça va considérablement influencer le travail que je vais faire sur ma photo. Donc prudemment, je ramène ma valeur d'exposition à moins 0,30 pour le moment. parfois le point le plus blanc de l'image n'est pas sur le sujet principal. Par exemple, si ici mon point le plus blanc de l'image avait été la crête des vagues, qui est blanc aussi mais un petit peu moins blanc, ou les nuages, eh bien dans ce cas-là, j'aurais eu beaucoup moins de crainte à le laisser partir à blanc. Le problème, c'est que quand on surexpose une portion de l'image comme ça, eh bien il n'y a plus aucun détail dedans. Au lieu d'avoir la fine texture du bonnet, on n'a vraiment plus qu'une grosse tache blanche, et le résultat, c'est pas très joli. Mais quand ça arrive dans des points mineurs de l'image, comme le dessus d'un nuage, la crête d'une vague, qui ne sont pas les points essentiels, les points sur lesquels le regard se porte naturellement, bah c'est beaucoup moins gênant. Et dans ce cas-là, je n'hésite pas parfois à légèrement surexposer ces points-là, d'où l'intérêt de vérifier en fait quels sont les points de l'image qui sont les points les plus clairs avant de régler l'exposition. Alors j'en suis pas encore à chercher la bonne valeur d'exposition. J'essaye pour le moment d'avoir une vue globale. La bonne valeur, elle va dépendre de la valeur des tons foncés, de la luminosité et même du contraste. Donc en fait, il n'y a pas moyen de trouver d'abord la valeur de l'exposition, puis de faire le ton foncé, puis de faire la luminosité. Moi, je règle ces paramètres ensemble, et donc je fais un premier passage pour avoir plus ou moins les valeurs correctes, et puis je repasse une deuxième fois pour peaufiner, affiner, en fonction des choix que j'ai fait dans les autres valeurs. Deuxième étape, les tons foncés. Et les tons foncés, c'est exactement l'inverse. Ça concerne la partie gauche de l'histogramme, et donc de la même façon avec la touche Alt, je vais voir quelle est la partie sombre dans l'image. Alors ce sont visiblement des points mineurs ici, ce qui est les points les plus sombres de l'image, c'est l'ombre projetée par Sophie. Si on perd un peu de détails dedans, c'est pas grave, c'est une ombre. Je vais regarder un petit peu à vue d'œil ce que ça donne avec des valeurs assez faibles, 5, 6. Je trouve que dans ce cas-là, l'image manque de contraste, elle est assez pâlote, je vais dire. Je vais la remonter pour voir ce que ça donne. Évidemment, plus je remonte les tons foncés, plus ça veut dire que le noir commence tôt dans l'image. Et là, je suis en fait à une valeur de 46, qui est très très élevée. C'est rare d'arriver à des valeurs pareilles. Et l'image est bonne, parce qu'en fait, effectivement, la zone la plus foncée de l'image, c'est l'ombre. Et une ombre, par définition, c'est noir, donc c'est pas gênant si elle apparaît comme étant plutôt fort noire. Je fais une petite mesure dessus avec la pipette. Je suis encore à des valeurs de 32-33, donc il y a encore du détail dans l'ombre. On devine encore légèrement le sable. Si le visage avait été visible, j'aurais sans doute pris une valeur pour les tons foncés beaucoup moins marquée. Parce que sinon, les ombres qui s'affichent sur le visage seraient elles aussi très sombres. Et si l'ombre est sur le sol, donc c'est pas gênant, sur le visage, ça donnerait des ombres trop marquées qui ne seraient sans doute pas très très jolies. Paramètre suivant, c'est la luminosité. Et la luminosité, elle influence le point gris, les valeurs médianes en fait. La luminosité, c'est la partie centrale de la courbe. Et là, on voit bien que le pic, donc en l'occurrence ici, c'est pour l'essentiel Sophie, eh bien se déplace vers la gauche ou vers la droite. Je crois que je vais essayer d'avoir une image assez contrastée. Je m'oriente en tout cas vers ça sur cette photo-ci. C'est pas le cas pour toutes les photos, mais je crois que sur cette photo-ci, ça a l'air de marcher pas mal. En ayant Sophie qui est le point clair et en laissant la plage et la mer partir vers des valeurs de luminosité beaucoup, beaucoup plus basses. Dernier paramètre, le contraste. Caméra RAW applique une courbe en S, donc une courbe de contraste sur l'ensemble de l'image. Et le paramètre contraste nous permet en fait de régler la pente de cette courbe. Et là encore, je vois qu'en poussant le contraste à des valeurs très élevées, des valeurs que j'utilise pas systématiquement, certainement pas, qui ne seront certainement pas appropriées à toutes les photos, j'arrive à un type de tirage qui me plaît sur cette photo-ci. L'étape suivante, c'est d'ajuster plus finement ces différentes valeurs. Donc là, j'ai une représentation un peu globale de la photo vers laquelle je m'oriente. Les valeurs doivent être affinées les unes par rapport aux autres. Et en particulier, pour aider sur le contraste, vous pouvez aller dans l'onglet courbes. La courbe en fait de contraste s'affiche. Et donc on peut choisir de régler justement si on veut une courbe de contraste plus fort, une courbe de contraste moyen, voire personnaliser la courbe en prenant et en ajoutant des points, exactement comme on fait avec l'outil courbe dans Photoshop. Alors je constate que sur cette photo-ci, en fait, je crois que je vais m'orienter vers une courbe personnalisée pour faire une différence assez marquée et que le point, la courbe part sur la valeur en S et s'inverse, soit vraiment dans le pic de valeur qui est autour de Sophie. Ce faisant, j'arrive à une courbe avec une pente assez forte en finale. Il n'est pas toujours nécessaire de mettre une courbe de contraste spécifique. Ici, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça m'a permis vraiment de placer le S avec précision autour du pic dans l'histogramme. Mais sur la plupart des photos, la courbe standard convient très très bien. Le dernier contrôle sur lequel on peut jouer, c'est la saturation. J'avoue que je m'en sers assez peu parce que de façon générale, je n'aime pas les photos avec des couleurs trop saturées. De nouveau, c'est une question de goût. Si vous aimez des photos saturées, bien vous n'hésitez pas, vous tirez un petit peu le curseur vers la droite. Si vous l'amenez complètement à gauche, la photo va passer en noir et blanc. Ce qui est intéressant en manipulant ces différents curseurs, surtout au début pour bien comprendre l'impact de ces curseurs, c'est de regarder l'histogramme et de voir comment effectivement quand on varie la luminosité, c'est bien le pic de l'histogramme, le point central de l'histogramme qui va se déplacer vers la gauche ou vers la droite. Quand on varie les tons foncés ou l'exposition, ce sont bien les valeurs extrêmes, gauche-droite de l'histogramme, qui se modifient le plus. Ça permet, je trouve, vraiment de mieux comprendre l'interaction de ces paramètres les uns par rapport aux autres. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut vraiment l'ensemble des paramètres pour obtenir un résultat approprié. Dernier paramètre, la saturation. Et en fait, le plus simple, c'est d'amener la saturation à moins 100. Vous allez voir que la photo passe en noir et blanc. Et à plus 100, vous allez voir que la photo a des couleurs qui sont exagérément vives. Ça n'en est même plus joli. En l'occurrence, je trouve que pour cette image, mais j'avoue que je n'aime pas les images très saturées. En l'occurrence, je trouve que pour cette image, la saturation de 0 me plaît beaucoup. L'étape suivante sont les outils pour terminer, finaliser la composition, le cadrage. Alors premièrement, il faut remettre l'horizon droit, il ne l'a absolument pas sur cette photo. Pour ça, je vais utiliser l'outil redressement qui est vraiment prévu pour ça. Il est très simple d'emploi. On trace une droite entre deux points et la droite doit suivre une ligne parfaitement horizontale ou parfaitement verticale. Donc ici, je la trace évidemment le long de l'horizon. Et ce faisant, Camera Raw calcule un recadrage qui correspond parfaitement, qui va avoir comme effet en fait de ramener la ligne parfaitement verticale ou parfaitement horizontale. L'étape suivante, c'est de recadrer. Et donc là, de nouveau, je vais utiliser le recadrage pour placer mon sujet là où je le souhaite. En l'occurrence, je trouve que la photo est bien trop portée vers la gauche. Donc je vais recadrer de façon beaucoup plus serrée. Voilà qui est fait. Il y a aussi trop de sable en avant, donc là aussi je vais recadrer. Oups, ce faisant, j'amène ma ligne d'horizon parfaitement à la moitié de la photo, c'est pas très joli. Donc je vais un petit peu la décaler, et j'essaye de conserver Sophie, le sujet principal, comme étant à peu près sur la ligne des tiers de droite. Vous pouvez contrôler le rapport de recadrage, c'est-à-dire être sûr que la photo va respecter un certain ratio en maintenant en fait la souris enfoncée sur le bouton de l'outil recadrage. À ce moment-là, un petit menu apparaît et vous pouvez choisir les rapports standards 3-2, carré, tiers, etc., etc. Les rapports standards tels que le 3-2 par exemple ont ceci de très pratique que sont des standards de l'industrie et donc ça veut dire qu'on peut facilement les faire tirer dans un laboratoire, on trouve des albums photos qui sont à cette taille-là, on trouve des cadres qui sont à ce ratio-là, donc c'est beaucoup beaucoup plus simple quelque part d'exploiter la photo par la suite. Mais je crois qu'avec le jet d'encre, on n'a plus aucune raison de se laisser coincer, limité par ces rapports standards. Si vous voulez travailler en format carré ou dans n'importe quel autre format, vous pouvez. Faites attention néanmoins avec le carré, une photo qui est presque carrée, c'est pas joli. Il vaut mieux alors forcer un format vraiment carré. Et donc j'ai tendance sur ce type d'image à cadrer large pour pouvoir achever mon cadrage, achever ma composition dans Camera Raw. Pour ce genre d'image, il y a déjà beaucoup de paramètres à gérer. J'étais à genoux pour être à la bonne hauteur par rapport à la petite. Je voulais absolument que le bateau soit visible et à une bonne distance par rapport à elle pour venir fermer l'image. J'avais le soleil du midi, donc il fallait faire très attention à l'exposition. Il y avait d'autres enfants qui jouaient. Je voulais avoir un coin de plage sur lequel on ne les voyait pas et où le sable était propre. Donc ça fait beaucoup de paramètres à gérer. Si en plus j'avais dû veiller à avoir un horizon parfait, à avoir un cadrage idéal, je crois que j'aurais jamais appuyé sur le déclencheur. Donc ce que je fais, c'est cadrer un peu trop large, sachant que j'aurai à redresser mon horizon, sachant que j'aurai à finaliser ma composition dans Camera Raw. Enfin, je passe à l'onglet détail et ce faisant, je redouble-clique une fois sur l'outil zoom pour amener la photo à 100%. Donc il y a trois paramètres seulement dans l'outil détail, la netteté, qui en fait règle l'accentuation, et le lissage de la luminance, la réduction du bruit de couleur, qui sont en fait deux filtres anti-bruit. En l'occurrence, la photo ne souffre pas d'un bruit excessif. Donc je vais tout simplement ramener les deux filtres anti-bruit à zéro et je vais augmenter un petit peu l'accentuation parce que je sais que la photo était faite avec un objectif qui manque un petit peu de piqué. Certaines personnes ramènent la netteté à zéro, donc ils n'appliquent aucune accentuation à ce niveau-ci et ils préfèrent appliquer toute l'accentuation juste avant le tirage. Pour ma part, j'aime bien déjà ramener un petit peu de détails. Il ne faut pas mettre trop d'accentuation parce que sinon, effectivement, au moment du tirage, vous ne pourrez plus réaccentuer. L'onglet objectif permet de corriger les aberrations qui sont introduites par l'objectif, comme une aberration chromatique. On peut également, si l'objectif en souffre, corriger le vignettage. Alors, l'objectif ici ne souffre pas d'aberration chromatique majeure, donc c'était pas nécessaire de le faire. L'onglet étalonné, je vais être franc, je m'en suis jamais servi. Dernière étape, dernier paramètre à régler, les paramètres du flux de production. Il détermine comment l'image va s'ouvrir dans Photoshop. Les paramètres taille et résolution, c'est assez simple. Vous pouvez choisir d'extrapoler l'image, de la rendre plus grande ou de la diminuer en taille, exactement comme vous le feriez avec l'outil redimensionné dans Photoshop. La vraie question sur ces paramètres, c'est ce qui concerne les espaces de couleur, ce que Adobe a traduit de façon un peu malheureuse à mon avis par distance. On a un choix limité, il y a 4 valeurs possibles. Je n'ai pas le temps dans cet épisode d'étudier en détail ce que recouvrent ces espaces de couleur, mais en deux mots, c'est la manière dont Photoshop va traduire les couleurs en nombres. Puisqu'on est en numérique, Photoshop va à un moment devoir travailler avec des nombres, et donc ça lui donne la correspondance entre les couleurs et les nombres. À mes yeux, il n'y a que 2 espaces qui sont réellement intéressants, c'est sRGB et Profoto RGB. Pourquoi ? sRGB, c'est l'espace à utiliser pour envoyer ses photos dans un labo pour les faire tirer. Si vous envoyez les photos dans un autre espace, les couleurs ne seront pas belles. sRGB est également l'espace qu'on va utiliser pour afficher les photos sur le web. Notez que depuis Photoshop, on peut convertir. Donc vous pouvez très bien ouvrir toutes vos photos en Profoto RGB et puis convertir celles que vous envoyez vers un labo en sRGB, mais à mes yeux, c'est une perte de temps. Profoto RGB, c'est un espace de couleurs extrêmement large qui a été conçu spécifiquement pour représenter toutes les couleurs qu'on peut capturer avec une pellicule et qu'on peut capturer avec un appareil numérique. Donc c'est à mon sens l'espace des photographes. Je sais que beaucoup de photographes utilisent Adobe RGB, mais à mes yeux, ce n'est pas l'espace idéal pour la photographie. C'est un espace qui a été conçu pour la presse, pour les impressions offset. Donc si vous préparez un livre, un journal, c'est clairement l'espace idéal. Mais en tant que photographe amateur où le but est d'ouvrir notre photo, de la manipuler et de la tirer dans les meilleures conditions possibles, il me semble que sRGB, l'espace que nos labos photo nous demandent, ou Profoto RGB, l'espace le plus large qui gère le plus de couleurs, sont des choix beaucoup plus raisonnables. Quant à la profondeur, c'est très simple. En sRGB, 8 bits suffisent. En Profoto RGB, il faut impérativement être en 16 bits. Donc en fonction du choix qu'on a fait au-dessus, on adapte 8 bits ou 16 bits. On reviendra sur le sujet des espaces de couleurs plus tard dans Déclencheur et je vous expliquerai plus en détail pourquoi je préfère Profoto RGB par rapport à Adobe RGB. Je vérifie les options du flux de production. Donc pour le recadrage, je choisis la taille normale. Je ne mets pas de plus, pas de moins. Je prends la taille telle qu'elle est indiquée. La résolution 300 pixels par pouce, c'est parfait. Et je vais choisir évidemment pour la distance Profoto RGB et une profondeur de 16 bits, puisqu'en Profoto RGB, il faut impérativement travailler en 16 bits, pour avoir une image avec le maximum de couleurs préservées, ce qui me donnera le maximum de flexibilité pour après faire des tirages. Je suis prêt, j'ouvre l'image dans Photoshop. J'espère vous avoir convaincu que développer un fichier RAW, c'est pas compliqué, et j'espère vous avoir également montré en quoi le RAW fait gagner du temps. Si je ne travaillais pas en RAW, je devrais de toute façon faire les mêmes corrections de couleurs, de contraste, etc. Mais je les ferais dans Photoshop, avec un fichier déjà traité, et donc avec beaucoup moins de latitude dans le traitement des images. Donc RAW, c'est vraiment le format pour travailler plus vite. Troisième segment, donc, vos commentaires et vos réactions. Pour laisser un commentaire, une suggestion ou un message d'encouragement, vous pouvez visiter le site www.déclencheur.com. De nombreux messages reçus depuis le dernier épisode, avec pour commencer des messages d'encouragement reçus de Pierre, de Jean-Luc, de Sam, de Magalo, d'Antoine, de Thierry, Frédéric, Mario Faubert et Joe Fision. Merci à vous tous, vos encouragements me poussent, je dirais, dans le dos et m'aident vraiment à produire ce podcast. Pierre BGT et Dom ont complété les informations fournies sur de GIMP. Pierre, par exemple, insiste sur la possibilité d'utiliser de GIMP pour générer des textures et des motifs. Et on sait, il trouve que de GIMP est plus complémentaire que concurrent de Photoshop. Dom, quant à lui, nous a proposé quelques liens vers des outils RAW, vous irez voir sur le site, et nous annonce que la prochaine version de GIMP travaillera en 16 bits et en 32 bits, supportera la quadrichromie et supportera de façon native les profils couleurs. Petit complément d'information, vous avez été plusieurs justement à m'interroger sur la disponibilité de logiciels RAW sur Linux. J'ai découvert récemment que Bible, un produit dont on a déjà parlé sur Déclencheur, est également disponible sur Linux, donc voilà une option supplémentaire à côté de GIMP. Un commentaire de photo qui se plaint de la manière dont je prononce le mot « septembre ». J'y étais attentif en montant cet épisode et c'est exact, je ne prononce pas correctement les R dans certains mots. Je vais tenter de corriger ce défaut à l'avenir, mais je trouve personnellement qu'un des charmes du podcasting, c'est justement de découvrir des accents qui sont inhabituels en radio ou en TV. Eric pose une question technique. Il a entrepris de numériser l'archive complète de toutes ses photos familiales et cherche à modifier la date qui est enregistrée dans les fichiers scannés pour qu'elle corresponde à la date de la prise de vue, au lieu d'être la date à laquelle il a numérisé le document. La réponse n'est pas immédiate parce qu'en fait, la date peut être enregistrée en 3 endroits. Ce peut être la date du fichier, C'est peut-être la date qui a été enregistrée dans l'exif, c'est-à-dire les données techniques du scanner. Ce peut être la date dans la description IPTC, une description journalistique, je dirais, du fichier et de l'image prise. Si c'est la date du fichier, on peut la modifier à l'aide d'outils programmeurs, et je pense par exemple à l'outil Touch, qui est fort utilisé par les informaticiens, T-O-U-C-H. Pour les autres dates, il va falloir utiliser soit un éditeur EXIF, soit un éditeur IPTC. Pierre nous propose une astuce pour les photos de nuit, l'utilisation des rafales. En effet, comme Nicolas l'explique, quand on appuie sur le déclencheur, il y a un mouvement de l'appareil qui peut entraîner un flou pour les photos prises la nuit. Pierre fait remarquer qu'en utilisant une rafale, la première photo sera effectivement floue, mais comme les photos suivantes sont prises sans lâcher le déclencheur, elles n'auront pas ce flou. Jean Bamin réagit sur un épisode plus ancien, l'archivage, pour présenter le logiciel JBrute. JBrute est un catalogueur qui organise sa base de données autour du format ouvert IPTC. Ça évite donc le piège dont je parlais dans l'épisode d'archivage, d'avoir les données, les métadonnées, enregistrées dans une base propriétaire. Suite au mini sur la balance dit blanc, Katsura s'interroge sur l'utilisation d'une feuille de papier blanc pour prendre la mesure de la balance dit blanc. JG42 lui rappelle l'existence du Weibull, dont on a également parlé dans cet épisode. En deux mots pour répondre à Katsura, une feuille blanche peut être utilisée, mais elle sera moins précise qu'une cible dédiée spécialement construite pour la balance dit blanc. Gercoffi s'explique que son appareil peut enregistrer deux balances dit blanc mesurées. Est-ce une alternative, demande-t-il. Qualitativement, il n'y a pas de différence notable entre un JPEG développé dans Camera Raw ou un autre développeur de Raw et les JPEG développés dans l'appareil dès lors qu'on a pris les mêmes réglages. Le gros avantage du Raw, je le répète, pour moi, c'est dans le confort. Au lieu de devoir faire tous ces réglages sur les terrains, on les peaufine à son aise devant un grand écran. On peut essayer différents rendus. Donc certainement aucun problème à utiliser la balance des blancs mesurée de l'appareil, mais je trouve que le RAW plus un Weibull est beaucoup plus confortable. Et notez qu'il ne faut pas non plus s'inquiéter outre mesure de la balance des blancs. Je vous parlais du reportage tout à l'heure, je n'ai pas fait systématiquement des mesures de balance des blancs. Je n'allais pas aller déranger la cérémonie avec ma cible pour prendre une mesure de la balance des blancs. Et donc ce que je fais, je reprends la balance des blancs approximative sur les vêtements blancs des ecclésiastiques tout simplement. Dernier commentaire sur ce sujet, Philippe, qui regrette que le mini soit une reprise de l'épisode d'avril. Alors le principe derrière les mini, c'est de constater que vous êtes nombreux aujourd'hui à découvrir le podcast, en particulier depuis juillet. Et les mini cherchent à vous résumer les thèmes qui ont été abordés, pour vous permettre de découvrir des sujets que vous n'auriez peut-être pas regardé, écouté par vous-même, ou pour vous remémorer, si vous les avez écoutés, l'essentiel d'un sujet. Il faut aussi nous laisser un petit peu de temps pour trouver nos marques, mais on a en prévision, et je crois que ça devrait arriver très bientôt, des mini qui sont 100% originaux, donc qui ne sont pas repris à partir des épisodes normaux. Sébastien Leroy réagit sur l'épisode histogramme, et en particulier sur la postérisation qui se produit lorsqu'on retouche des JPEG. Il propose pour l'éviter de passer en 16 bits. Je suis entièrement d'accord avec Sébastien, ça limite la casse, mais ça ne la limite pas autant que de travailler en RAW. Sur le même épisode, Franck Doyen est en désaccord complet. Il préfère visualiser l'image et l'indicateur de surexposition plutôt que d'utiliser l'histogramme. Je crois qu'il va falloir être d'accord d'être en désaccord sur ce point. L'indicateur de surexposition est certainement très utile, mais il fournit une information qui est différente de celle de l'histogramme. Et à mon yeux, les deux sont utiles et l'histogramme est plus précis pour la plupart des photos. Il me reste à vous remercier de votre écoute. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur le site www.déclencheur.com. L'abonnement à un podcast est gratuit. Ça signifie simplement que vous recevez automatiquement les nouveaux épisodes au fur et à mesure de leur parution. Toutes les infos pour ce faire sont sur le site www.déclencheur.com.